Alors, porter sa croix, perdre sa vie, pour une rentrée, c'est bien. Avec la croix, on ne sait jamais vraiment où on va, mais nous savons qui nous suivons. Et c'est ça notre espérance, c'est ça notre foi, et c'est ça qui nous donne de suivre le Christ. En fait, dans notre vie de foi, nous avons deux grands passages à vivre. Deux grands passages. Le premier qui va être un peu le passage, vous voyez, de la reconnaissance de Jésus comme l'un des prophètes. Vous voyez, quand on dit Jésus, c'est Jean-Baptiste, c'est la réincarnation de Jean-Baptiste, d'Élie ou un des prophètes, c'est lire et comprendre Jésus un peu en dessous quand même de ce qu'il est. Et donc, il faut passer de cette reconnaissance de Jésus comme l'un des prophètes, comme un personnage important, un personnage inspirant, et nombre de nos contemporains pourraient dire de même, c'est un personnage inspirant, passer de cette reconnaissance à la foi au Christ. Ça, c'est le premier passage. Et notamment parce qu'on est à Césarée de Philippe, et Césarée de Philippe, c'est le lieu d'un grand sanctuaire païen, avec des sacrifices humains et tout ça, enfin voilà, vraiment un sanctuaire païen dédié au dieu Pan. Et donc, c'est pas pour rien que le Christ fait professer la foi de Pierre à cet endroit-là. Si je dis que Jésus est compris comme l'un des prophètes, c'est comprendre un peu en dessous quand même de ce qu'il est. Donne-t-on sa vie pour un prophète ? Est-ce qu'un prophète est capable de nous dire « Qui perd sa vie à cause de moi ?» Donnerait-on notre vie pour un prophète ? Voyez que Jésus ne veut pas simplement être aimé parmi d'autres, mais il veut être préféré. Il veut être l'unique. Qui pourrait exiger le don de notre vie sinon Dieu ? Qu'est-ce qui nous fait effectuer ce passage d'une reconnaissance de Jésus comme un personnage important, à la foi au Christ ? C'est la rencontre avec le Christ. Alors qu'elle soit datable, qu'elle soit durable, mais à un moment donné dans ma vie, je reconnais qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Est-ce que j'ai fait cette rencontre avec le Christ ? Tous les derniers papes en ont parlé, hein. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique, une encyclique importante, hein, « Dieu est amour », dit au deuxième paragraphe, dans l'introduction, « À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là, son orientation décisive. » Est-ce que j'ai fait cette rencontre avec le Christ ? Si je l'ai fait, très bien, à moi de la nourrir, à moi de venir épuiser, hein, quand je perds un peu pied, quand j'ai besoin d'un nouveau souffle, je viens épuiser à cette rencontre, à cet événement décisif de ma vie. Si je ne l'ai pas fait, à moi d'ouvrir mon cœur, de la désirer cette rencontre, de la demander, hein, de me disposer pour que Dieu se révèle dans ma vie. Ça, c'est le premier des passages à effectuer. Et on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas simplement passer de Jésus comme un personnage important à la foi au Christ. Il nous faut passer d'une certaine compréhension du Christ à la foi au Christ crucifié. C'est ce que n'arrivent pas à faire les apôtres aujourd'hui. Ce que fera un saint Paul. Saint Paul, quand il dit aux Corinthiens, « Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ », le crucifié. Saint Pierre, aujourd'hui, il est né incapable de le faire, incapable de professer cette foi-là. Il dit « Tu es le Christ ». On a l'avantage d'avoir l'évangile de Marc, qui est le seul évangile où on a deux professions de foi. Une première, aujourd'hui, au milieu de l'évangile, « Tu es le Christ », très bien. Et puis, il faudra attendre la fin, la crucifixion et même la mort de Jésus sur la croix. Au moment où il rend son dernier souffle, il y a le centurion romain, c'est plus le juif Pierre mais c'est un centurion romain, donc un païen, qui dira « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » On a besoin des deux. Et il faut effectuer ce deuxième passage de comprendre le Christ comme le Christ crucifié. Qu'est-ce qui nous fait faire ce passage ? Je pense que c'est la véritable compassion. Compatir, on est d'accord, hein, c'est souffrir avec. Entrer dans cette véritable compassion. Voyez que dans l'Évangile, ce qui est satanique, c'est plus simplement les tentations au désert. On n'en est plus là. C'est plus simplement la cruauté du bourreau qui va emmener Jésus jusqu'à la croix. On voit bien que c'est empêcher Jésus d'aller jusqu'à la croix. Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ça, c'est proprement satanique. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la fausse compassion. C'est la compassion du sentimental. Et on en a un exemple dans les projets de loi d'euthanasie. Ça, c'est un exemple de fausse compassion. On voit Pierre dans l'Évangile qui refuse la souffrance du Christ, et en fait qui la refusera aussi pour lui. Hein. Bon, il mourra martyr 30 ans plus tard, mais au moment où on en est dans l'Évangile, vous voyez, il dormira au moment de l'agonie. Super pour le premier des apôtres. Il reniera son maître au moment du procès. Il va visiter la communauté en Galatie, les Galates. On a ça dans l'épître aux Galates, hein, de Saint Paul. Et puis, en fait, il refuse le conflit. Il y a un petit conflit entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens. Et en fait, il refuse le conflit. Donc, il faut que Paul passe derrière pour trancher, parce que lui, il a fait cette expérience du Christ crucifié. On voit la Vierge Marie au pied de la croix. Quelle est son attitude ? Elle est dans l'attitude d'une vraie compassion. Elle sait de quoi son fils est capable. Hein. Il est capable de nous sauver même au pied de la croix, même en descendant de la croix. Et elle ne va pas lui dire « descends de la croix ». Ça, elle ne le fait pas. Elle ne lui ôte pas la souffrance, mais elle souffre avec. Elle est un peu comme, comme au chevet d'un malade qui consent avec espérance, qui ôte pas la souffrance, qui enlève pas la souffrance, mais qui souffre avec, qui compatit. Vous voyez que Pierre, il est un peu dans l'idée d'un Messie qui est fort. On a eu, la semaine dernière, on a eu une guérison. Bah oui, il a fait l'expérience, il a vécu un certain temps avec Jésus, il a vu le grand prédicateur qui remuait les foules, il a vu un certain nombre de miracles, des pêches miraculeuses, multiplications des pains, des guérisons, des exorcismes. Et donc, il est fasciné par ce Messie qui est fort. Tu es le Christ, tu es un Christ qui est fort. Mais Marie, elle a tenu Jésus dans ses bras, elle a vu la crèche, elle a vécu la crèche. Elle l'a connu faible, petit, ce Messie. Donc elle sait qu'il est capable de faiblesse, il est capable de souffrir. On comprend Pierre, hein, on est dans la même attitude. Hein. On voit tous les miracles de Jésus et puis on arrive, on dit mais pourquoi l'annonce de la Passion arrive à ce moment-là ? Il vient de faire des miracles. C'est pas très cohérent. Mais en fait, la croix n'est jamais cohérente. Regardez nos vies, quand vient une croix, c'est jamais cohérent. On ne peut pas se dire, tiens, c'est une suite logique. Non. Non, la croix, c'est jamais cohérent. Ce qui nous prépare, voyez, à vivre la croix dans nos vies, c'est des moments de lumière, profondément. La Vierge Marie, avant d'être au pied de la croix, elle a vécu l'Annonciation. Je pense que c'est un beau moment de lumière. Enfin, on aimerait bien être à sa place à ce moment-là. Enfin, recevoir l'Esprit Saint, avoir une révélation de Dieu, enfin, c'est quand même pas rien. Prenez Mère Teresa, avant sa nuit de la foi, elle a eu des dons, mais inouïs de la part de Dieu. Une relation particulière avec Dieu, mais inouïe. Et ça, ça l'a préparé petit à petit à vivre cette nuit de la foi. Prenez une Thérèse de Lisieux. Avant son agonie dans les deux dernières années de sa vie, elle voit la Vierge Marie lui sourire et la guérir. Bon, c'est pas rien non plus. Donc on a besoin de ces moments de lumière, ces moments de révélation, ces moments intenses où Dieu nous révèle sa présence, mais qui nous préparent toujours à porter la croix derrière. La croix, c'est ce qui porte du fruit. Que serait le monde sans une mère Teresa qui s'est occupée des pauvres? Que serait le monde sans un Maximilien Kolbe qui prend la place d'un père de famille pour s'offrir au SS? Que serait le monde sans un père Damien qui vit au milieu des lépreux? Et alors on va décliner les 2000 ans de charité de l'Église, jusqu'à arriver jusqu'à nous. Que serait le monde sans une mère de famille qui s'engage dans une association pour s'occuper des mamans seules? On en est là, hein? Que serait le monde sans un médecin qui fait un peu d'heures sup pour aller visiter un patient? Parce que le patient, il a besoin d'aide à ce moment-là. Il a besoin d'une écoute, il a besoin d'une oreille. Vous voyez, c'est ça porter la croix. C'est ça la vraie compassion. Alors qu'à travers cette Eucharistie, nous savons que l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour, le sacrement de la charité. Que nous recevions un surcroît de charité, un surcroît de compassion dans cette Eucharistie. Amen.